Sport Matin Dimanche de ce 23 mars, présenté par Fabien Gazot. Salut Fabien.
Salut David et bonjour à vous tous. Un gros programme encore ce matin pour commenter toute cette actualité sportive en football. Le Choret s'est imposé à la Châtaigneraie hier soir et prend la tête d'un championnat de N3, toujours très serré. On fera un focus ensuite, toujours en football, sur les huitièmes de finale de la Coupe des Deux-Sèvres avec des affiches très intéressantes. On parle évidemment des premiers qualifiés également. En basket, on débrief Cholet-La Rochelle. CB s'est fait une frayeur hier soir, mais s'impose grâce à un quatrième carton de feu. En rugby, le leader Niort reçoit son dauphin Auch ce dimanche après-midi à Espinassou. En cyclisme, Cholet-Aglotour compte pour la Coupe de France ce dimanche. Entretien à suivre avec le directeur de l'épreuve. L'école de découverte des sports du bocage apprend les écoliers à savoir rouler à vélo. Reportage à suivre. Et puis l'UST Thouars Athlétisme prépare pour le plaisir de courir sur 5 et 10 km samedi prochain, 29 mars. Toute l'équipe de Fernando Desiderio se prépare avec enthousiasme.
Sport Matin Dimanche du 23 mars, c'est parti.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et on commence donc avec le football, les résultats. En National 2, les Herbiers se sont imposés à Locminé 1-0. Bordeaux a été battu par Blois 1-0. Le Poiré a battu dans le derby vendéen par La Roche-sur-Yon 3-0. Décidément, il ne fallait pas jouer à domicile ce week-end puisque Poitiers a également été battu à la maison par Saint-Brieuc 2-1. Saumur battu à domicile par Avranches 3-0. Et puis le leader Saint-Malo s'est incliné à Dinan 2-1. Le championnat de National 3, Panazol a créé la surprise en allant s'imposer à Vitré 3-0. Angers a battu Saint-Philbert 3-1. Laval et Nantes ont fait un nul 1-1. Rennes, Tour d'Auvergne a battu La Rochezeau 3-1. Sablé-Chaland 1-0. Fontenay a fait un nul à Vertou 2-2. Et puis hier soir, la Châtaigneraie accueillait Choret. Choret s'est imposé 2-1. Choret qui prend la tête d'un classement qui change tous les week-ends dans cette poule très serrée où les prétendants à la montée se soucient encore de leur maintien. Hier soir en Vendée, les Choréziens dominés à 10 pendant quasiment toute la deuxième mi-temps se sont montrés efficaces et prennent donc cette place de leader. Écoutez la réaction après la rencontre de Fabrice Fontaine, le coach de Choret.
On est assez réaliste, c'est ce qui nous a manqué en début de saison, mais je pense que quand vous devenez réaliste, c'est que vous travaillez pour le devenir. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins d'occases qu'en début de saison. Je pense à la Châtaigneraie qui, eux, avaient très peu d'occases en début de saison et qui gagnaient leur match, qui avait une des moins bonnes attaques et qui était première du championnat sur un bon tiers, une moitié. Donc les joueurs montrent match après match. C'est ce que je leur demande de construire. Ces valeurs de travail et de résilience et de vraiment de détermination pour aller jusqu'au bout des choses. Naturellement qu'à un moment donné, sur des matchs qui sont compliqués, hein, parce que c'est une très belle équipe, la Châtaigneraie, qui était très longtemps au haut du classement, avec des très bons joueurs, ça sourit de votre côté. On a eu, c'est ce que j'ai dit, on a mangé notre pain noir en décembre et janvier. On a beaucoup travaillé pour relancer la machine. Et aujourd'hui, on récupère les fruits de ce travail. Maintenant, une autre page s'écrit, 6 matchs. Et si à un moment donné, on va chercher quelques matchs comme ça, maintenant on est capable de gagner à l'extérieur, d'être très solidaire et d'être très costaud, il faut être capable maintenant de le garder. C'est ça qui est important, c'est ce que je demande aux joueurs, pour pouvoir s'offrir aussi peut-être une belle histoire dans 6 matchs. Maintenant, c'est que du bonus. L'année dernière, on s'est maintenu à la dernière journée. Cette année, on est dans les clous du maintien. C'est ce qui m'intéresse. Pour pouvoir commencer à construire, vous connaissez l'actualité de Niort. Donc, pour commencer à construire sereinement la prochaine saison, et tout ce qu'il y a devant nous, c'est que du bonus. Et ça leur appartient.
Fabrice Fontaine évoquait à l'instant l'actualité niortaise. Les Chamois vont disparaître. Florimond Labulle, seul repreneur en lice, n'ayant pas rehaussé son offre malgré le délai supplémentaire accordé par le tribunal qui prononcera la liquidation le 8 avril. Ces derniers jours, les clubs de Saint-Florent et Choret ont indiqué qu'ils travaillaient sur un rapprochement avec les Chamois. Deux options différentes, celle de Choret offrant la possibilité de jouer plus haut alors que Saint-Flo joue en Régional 2. Fabrice Fontaine n'occulte pas ce contexte mais veut que ses joueurs restent concentrés sur le projet actuel.
Et l'actualité de Niort, oui, avec tristement l'actualité des Chamois, qui va, une enseigne qui va bientôt fermer sa porte. Il faut qu'on reste serein. Les joueurs n'ont pas besoin de tirer des plans sur la comète. Il y a à Choré, il y a déjà un projet qui est très intéressant. Déjà terminer cette saison de la meilleure des façons. Ensuite, le football niortais, on verra si on construit, comment on le construit, avec qui.
Du côté de la Châtaigneraie, c'est la déception qui primait à la sortie des vestiaires hier soir. Dominant, mais courant après le score, après un but encaissé dès la 11e minute sur corner, les Vendéens n'ont pas su profiter de la supériorité numérique dès la 50e, breaké sur un contre rondement mené. Les hommes de Charles Devineau ont réduit le score par Suarez à la 83e, mais trop tard pour réellement inquiéter Blancheton, le portier chorésien, Charles Devineau.
C'est une équipe qui est très pragmatique, qui défend bien quand même, qui défend très bien, regroupée, et puis qui sait profiter des moindres failles, ou eux sur leur point fort, les coups de pied arrêtés, parce qu'ils ont de la taille, et nous on savait qu'on rendait de la taille et du poids ce soir. Maintenant dans l'utilisation du ballon, je pense qu'on a été bon, mais on n'a pas été tranchant sur les 20 derniers mètres, et pas assez créatif, donc ça se voyait un petit peu tout ce qu'on voulait entreprendre, et puis d'être mené, c'est quand même compliqué dans tous les championnats. Le deuxième but me fait un peu mal quand même. C'est lui qui scelle un peu le scénario et le résultat final. Même si on revient sur corner. Comme quoi, même quand on est petit, mais qu'on est dans les bonnes zones, au bon moment, on peut marquer. Leur victoire n'est pas imméritée. C'est une équipe qui est très pragmatique, s'appuie sur ses forces, a très peu de faiblesses. On a un vrai déficit offensif. Voilà, il faut aller chercher, à mon avis, 2 victoires sur 6 matchs. Les derniers ont gagné en plus, donc ça se resserre. Bon, voilà, on est dans les objectifs. Opération maintien, on le sait.
Charles Devineau, le coach de la Châtaigneraie, battu hier soir par Choré. 2-1. Les huitièmes de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine également ce week-end au programme. Et décidément, c'est un bon week-end pour Choré. La réserve s'est imposée à Saint-Junien hier 3-0 cet après-midi. On suivra tout particulièrement Aubin-Rortais face à Boulazac. Huitièmes de finale également chez les féminines pour Échiré-Saint-Gelais qui accueille Limoges dans cette Coupe Nouvelle-Aquitaine. En Régional 2, match en retard pour le Talus face à Poitiers dans la poule 1. Échiré-Saint-Gelais également joue contre Angoulême-Bassos. Hier, Selverine dans la poule C s'est inclinée contre Saint-André-Cubzac. 3-0. Les huitièmes de finale de la Coupe des Deux-Sèvres avec déjà 4 qualifiés hier. Vrère-Saint-Léger, vainqueur du FC Boutonnais, 5-0. Hervaux-Saint-Jouin a largement a dominé la réserve du COC 4-0. Le Pays de Loing s'est imposé à Val 3-0. Et puis, il a fallu une longue séance de tirs au but pour que Val de Boutonne se qualifie aux dépens de Saint-Cerbouillé, un partout à la fin du match. 8-7 après les tirs au but. Cet après-midi, à l'affiche, Effre-Fort-Prague contre Saint-Aubin-le-Clou, Terve contre le Pays Mexantel et Tervais sont actuellement irrésistibles en championnat de D2 Nord, en tête avec 2 points d'avance, mais aussi un match en plus. Ils ont un coup à jouer en coupe également. Baptiste Desbarres, le président Tervais, au micro de Vincent Nori au moment du tirage au sort.
Un tirage pas facile contre une D1, donc ils seront évidemment favoris pour ce match, mais ce qui est l'essentiel pour nous, c'est de recevoir. On a déjà fait un parcours il y a 2 saisons et nos supporters avaient beaucoup suivi, donc on espère avoir la même chose, avoir une super ambiance autour de ce match dans 15 jours.
Une équipe de Terve qui marche sur l'eau en ce moment. 9 victoires sur les 10 dernières rencontres, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc en ce moment, ça tourne plutôt bien, donc faudrait que ça continue.
C'est ça. Pourquoi ça marche bien?
Le groupe s'est bien trouvé. On a aussi eu quelques recrues cette saison, donc ça a permis de pallier un petit souci offensif qu'on pouvait avoir les dernières saisons. Donc,
la recrue offensive, Julien Binot, par exemple.
Mais aussi d'un autre attaquant, Marcelo Martinelli.
Le Pays Mexantais en danger donc cet après-midi face aux Tervais et leurs arguments offensifs. L'un des matchs les plus attendus de ces huitièmes, c'est le derby entre Beaulieu-Breuil et la réserve de Neuilly-les-Aubiers, qui sont sur le podium de la D2 Nord avec Terve, justement. La réaction, là aussi, après le tirage au sort du président de Beaulieu, Antoine Potiron.
Je pense que ça va être un super, super match, à domicile, devant un plein de supporters de notre côté. Un match contre un concurrent direct en, en deuxième division actuellement. On va essayer d'en profiter au maximum. On va jouer toutes nos cartes pour essayer de passer ce tour-là. Pas mal de copains, de personnes qu'on connaît du côté de Nueil. On a déjà joué le premier match de championnat, le match aller, et on attend le match retour aussi. Donc ça va être pareil pour ce match de coupe. Plein d'effervescence au niveau des supporters aussi. Au bord du terrain, on va en profiter au maximum et jouer tous les coups à fond.
Beaulieu-Breuil, Nueil-les-Aubiers, un tirage au sort qui satisfaisait également pleinement le coach Nueil-Aubrais, Mathieu Biraud.
Ça va être sympathique parce que c'est un petit déplacement, on va chez un club voisin, donc c'est un point positif. On voulait pas se déplacer très loin si on se déplaçait, donc on est plutôt satisfait. Hein.
Elle est belle cette saison pour le jeune coach que tu es, parce que hein, on se connaît un petit peu. À quoi est-ce qu'on l'attribue ?
On a un très gros groupe R1, ce qui nous permet de récupérer tous les week-ends des bons joueurs de R1. Donc forcément, quand les joueurs ont envie de jouer avec cette équipe réserve, on peut que tirer des choses positives.
Ça veut dire que sur la compo d'équipe, il va falloir être vigilant maintenant par rapport aux joueurs alignés ?
Tout à fait, on va faire attention. On avait déjà vu ce règlement. Donc on fera en fonction, mais il n'y a pas de souci parce qu'on a aussi... cette année, l'équipe réserve a utilisé plus de 27 joueurs. Donc on a largement les joueurs pour jouer cette compétition au maximum. Ça c'est un groupe pour la plupart, je les ai coachés, je les avais en U13 il y a presque 8 ou 9 ans maintenant. Donc c'est des garçons que je connais bien et on va essayer de faire quelque chose de sympathique dans cette coupe.
Le score en championnat au match aller c'était lequel ?
On avait gagné 2-0 chez nous, après on jouait sur synthétique, une surface que l'adversaire n'avait pas forcément l'habitude d'y jouer. Donc là, on va jouer à l'extérieur. On sait que Beaulieu est un gros club de coupe qui fait toujours des très beaux parcours en coupe. Donc je pense qu'ils seront favoris sur cette rencontre.
Ah ouais, d'accord. Il met la pression sur Beaulieu-Breuil. Mais on va se mobiliser. On les connaît, les supporters du FC Nueil-Aubiers.
Bien sûr, je pense qu'il y aura du monde au match. Et les gars sauront être présents pour le club et pour l'équipe.
À suivre donc ce Beaulieu-Breuil Nueil-Aubiers cet après-midi à 15h à Beaulieu. Autre match à suivre à tout près d'ici, Bressuire-Choret, un duel de réserve B qui peut tourner au casse-tête réglementaire pour les coachs car tous les joueurs ne peuvent pas être alignés, comme l'exprimait Pierrick Degnaud, le coach bressuirait également au moment du tirage au sort.
Déjà on reçoit donc c'est plutôt bien, mais après oui ça sera un match compliqué donc il faudra jouer le coup à fond, mais bon c'est toujours mieux de recevoir.
Match compliqué parce qu'il va falloir faire attention aux joueurs alignés.
Oui, pour nous une troisième équipe c'est réglementairement c'est extrêmement compliqué, surtout qu'on a des jeunes en région donc c'est pas facile non plus, donc il faudra être vigilant sur ces points là.
Ça veut dire que les potentiels joueurs alignés, le nombre se restreint ?
Oui, il se restreint fortement.
Pierrick Degnaud qui a annoncé lors de cette même émission qu'il allait faire une pause la saison prochaine, besoin de souffler pour celui qui a auparavant entraîné Paimbressière et Beaulieu-Breuil. En attendant, il y a un maintien à aller chercher. Pourquoi pas un quart de finale de coupe des Deux-Sèvres face à Choret cet après-midi. En huitième, les huitièmes de finale également en coupe Saboureau. Fenouarter s'est qualifié hier à Parthenay. 4-1 et Bessina SPTT a eu recours à la séance de tir au but pour se qualifier sur le terrain du pays néo-crèchois. Cet après-midi, Clazet-Bocage a fait un long déplacement à Aigondigné. Brion reçoit Niort-Saint-Liguer, Chandonnier-Pamply face à Val-de-Boutonne, Coulonges-Toircet contre Vraire-Saint-Léger, Exireuil face à Lapsy-Largesse-Moutier-sous-Chantemerle, Louzy contre Val pour ce huitième de finale de la Coupe Saboureau. Résultat évidemment ce soir en départemental 1, match en retard entre Vouillé et le pays néo-crèchois. En poule nord de D2, Portugais de Cerizet face à Gatifoot. Et puis dans la poule sud de D2, match en retard qui s'est joué hier. Pas de but entre Frontenay-Saint-Symphorien et la réserve de Parthenay. Cholet s'est donc fait une frayeur hier soir à la Meyrem, mais s'est imposé 83-77. 10 minutes plus tôt, les Choletais étaient menés 69-60 par la Lanterne Rouge, qui a bien cru signer un exploit, mais CB a du caractère et a renversé la situation dans le dernier quart-temps, notamment grâce à Cleveland Melvin en feu dans le Money Time. Mathéo Leray de retour hier soir sur le parquet qu'il a vu grandir. Il y a cru, mais les Rochelais ont craqué.
On a ressenti beaucoup de fatigue dans ce dernier quart, notamment moi. Donc voilà, on a craqué, c'est dommage parce qu'on avait le match en main, on était à plus 9. On les embêtait et voilà, ils ont vraiment dû s'employer pour venir nous chercher. Donc non, on peut quand même être satisfait de ce match. Voilà, après, ça reste une défaite. On reste en bas et voilà, il va falloir continuer à jouer, se remettre bien physiquement pour le prochain match.
Le rouleau compresseur Scholte a fini par avoir raison des Rochelais. Fabrice Lefrançois saluait l'état d'esprit et la fin de match de ses joueurs également au micro de Vincent Nori.
On a fait un quatrième carton héroïque, ce que j'avais demandé aux gars. Donc, ouais, ce qu'ils sont allés chercher en quatrième carton est admirable. Et ce que je trouve aimé, c'est l'aspect mental, quoi. Ça n'a pas baissé la tête et ça a continué à travailler, à faire les efforts, à s'entraider, à communiquer. Donc il y a très peu de, au final, de comportements négatifs. Hein. Moi j'en ai pas vu. Il peut y avoir de la frustration par moment, mais voilà. Et au soir de la 22e journée, on est là. Belle Meyret dans le quatrième carton qui a fait beaucoup de bruit. J'arrivais même plus à entendre mes assistants et moi ils m'entendaient même pas quand je leur parlais. Donc c'est plutôt des bons signaux.
Fabrice Lefrançois, vainqueur hier soir avec son équipe, a été prolongé jusqu'en 2028, annonce faite par le président hier soir lors de la soirée VIP avec son staff et ses joueurs. Fabrice est en train de réaliser une saison incroyable et il était donc tout naturel pour les dirigeants Scholtais de le prolonger à son poste et de préparer l'avenir sereinement à ses côtés, a déclaré Jérôme Mérignac, CB qui va maintenant préparer sa demi-finale de FIBA Eurocup, match aller cette semaine en Espagne à Saragosse. En Pro B, Nantes s'est imposé à Denain, à 85 à 75. Poitiers joue aujourd'hui à Chartres en Wonder League. La victoire d'Angers face à l'ASVEL, 59 à 53. Cet après-midi, La Roche joue à Tarbes. En National 2 féminine, Chorey s'est incliné face à Orthez, 61 à 64. Les Niortais, eux, jouent cet après-midi à la JSA Bordeaux. En pré-national féminine, Bressuire accueille ce dimanche Pouziou. Vouneuil en R2 féminine, la réserve du Réveil joue à La Rochelle, la réserve de Chorey joue à Bassins, et puis le Pays argentinais accueille Jarnac en Régional 2 masculine. Bressuire, Civray hier soir, et Civray s'est imposé à Valette, 73-77. La Esnior s'est inclinée au Bousca, 76 à 69 en Régional 3 féminine à l'affiche cet après-midi, Étré BC Cerisé 1 et Effre contre Neuville en R3 masculine. Dans la poule A, Neuilly-les-Aubiers s'est incliné à Ciré, 79 à 57. Saint-Jean-de-Thouars a été battu par Saint-Rogatien, 58 à 80 en Régional 3 masculine. Effre a été battu par Lormont, 56 à 68. Cet après-midi, Chorey accueille l'Entente Pessac. En handball en National 1 féminine, Celles-sur-Belle s'est inclinée hier soir face à Toulouse, 22 à 23. Défaite également pour les Montcoutantaises en N2 à domicile face à Bouguenay, 23 à 28. En National 2 masculine, Pouzauges revient de Saint-Ouen avec une défaite 35 à 30. En National 3 féminine, Lezay a été battu par Angoulême-Charente, 23 à 24. Prec dominé également par Onis, 21 à 26. Et puis en prénat masculine, sachez que Lezay a été battu par Hill, 33 à 41. Cet après-midi, Niort-Aglo joue à Limoges, face à Capo-Limoges. En volley, cet après-midi à Barbus, le VBPN, N2 masculine, reçoit la SPTT Laval. La réaction à suivre dans les éditions du soir à partir de 18h. On passe au rugby et des Rochelais en difficulté en top 14. Le nul hier soir à De Flandre pour les Rochelais face à Castres, 12 partout. Cet après-midi en National 2, Niort accueille Auch. Le leader reçoit son dauphin, un match qui sent bon, les phases finales. Déjà assuré de disputer l'écart, les Niortais vont s'attacher à conserver cette première place à deux journées de la fin. Les hommes de Johan Autier comptent 8 points d'avance sur les Occitans.
La première des choses, c'est qu'on est premier et qu'on l'est depuis longtemps. Donc on a quand même envie de conserver cette première place. Et que comptablement parlant, si on perd, tout est remis en question. Hein, parce qu'on aura un goal à barrage particulier qui sera négatif par rapport à Auch. Donc je crois que simplement ça doit juste nous permettre de garder les pieds sur terre et de se dire on se projette pas plus loin que Auch. Après Auch, on pourra peut-être déjà regarder différemment. On sort d'une semaine de vacances. Voilà, tout le monde est revenu avec la fraîcheur. On a envie d'en découdre.
Niort Auch cet après-midi à 15h à Espinassou. En Fédéral 3, Parthenay joue à Puy-le-Borough, Chorey à Cadojac. En Régional 2, Nouvelle-Aquitaine, le COP 79 joue à domicile et accueille Jarnac. Thouars se déplace à Châteaubriant. Et puis en Régional 3, sachez que Saint-Mexant reçoit Saujon. Qui va succéder à Paul Lapeyra, vainqueur de Cholet-Aglotour en 2024? Réponse ce dimanche aux alentours de 16h, après plus de 200 km sur l'agglomération choletaise et un circuit final de 50 km à Cholet même. La 47e édition d'une course que l'on appelait avant Cholet Pays de la Loire et avant même le Grand Prix de Mauléon-Moulins. Mais dorénavant, les coureurs arpentent uniquement l'agglo choletaise et 23 communes sur 150 km. Puis ce circuit final à Cholet, parcouru 7 fois, une course qui se règle souvent au sprint. Mais les baroudeurs peuvent avoir leur mot à dire. Entretien avec Jean-Michel Janteau, directeur de cette épreuve organisée par Cholet Événements.
Les quelques difficultés permettent souvent des échappées matinales, on va dire ça comme ça, qui permettent d'avoir un train de course relativement rapide et qui fait que, en plus, ça permet d'avoir une arrivée sur le circuit final un petit peu détachée quelquefois. Et avec, compte tenu des difficultés du circuit en ville, fait que nous finissons sur une forme de critérium et où nous retrouverons la bagarre pour l'arrivée souvent au sprint.
Ouais, vraiment intéressant pour le public ce circuit final. Les coureurs vont y entrer vers 15h et pendant plus d'une heure. Hein.
C'est ça, il y a quasiment une heure, il y a 50 km, donc bon, allez, 45, 48 km de moyenne, oui, une heure dix sur le circuit, avec une visibilité pour le public, ce qui je pense est intéressant, et puis qui donne une belle image du cycliste.
Alors, le public, il vient voir les coureurs et le plateau, il est toujours très intéressant. Qui sera là ce dimanche après-midi?
Le plateau, effectivement, est sympathique. Alors, nous avons cette année 21 équipes, notamment toutes les équipes françaises, puisque nous sommes Coupe de France et à ce titre-là, l'ensemble des équipes françaises doivent participer. Je vais donner quelques noms comme ça, hein. Notamment Paul Sexas, qui est un jeune coureur de Décathlon, Brian Coquart de chez Cofidis, et chez Arkea, nous avons deux coureurs qui peuvent être postulants pour la victoire, c'est Clément Venturini et Jente Biermans.
Alors, un nom à suivre aussi, alors c'est peut-être pas le profil qui lui convient le plus, mais on ne sait jamais vraiment avec lui. Thomas Gachignard, meilleur grimpeur sur Paris-Nice, de Sévrien d'origine, il sera là dimanche.
Oui. Oui, bien sûr. Alors, à suivre, moi, ça me ferait plaisir qu'il puisse effectivement gagner à Cholet. Hein.
Vous avez cité quelques équipes françaises, mais les équipes internationales sont là aussi. Hein.
Bien sûr, nous avons 8 pro-teams, hein, 4 équipes espagnoles, des équipes italiennes. Oui, je trouve qu'on a un plateau international qui est intéressant. Et je pense que nous sommes dans une logique de nos épreuves Coupe de France où effectivement les World Tour, ils sont pas là parce qu'ils ont tout leur programme de course 105 jours par an et c'est difficile pour eux de venir sur nos courses quelquefois. Quand nous regardons depuis quelques années les gagnants de cette épreuve, eh bien nous les retrouvons ensuite dans le peloton du top français ou du top international même. Je pense à Paul Lapeyra l'an dernier, Pitti qui avait gagné il y a 2 ans. Ce qui fait que je pense qu'on permet à ces gens-là de s'exprimer, à ces coureurs-là de s'exprimer, et ensuite de trouver une place dans le cyclisme mondial. Et donc, moi, je suis ravi de voir que ces coureurs puissent gagner à Cholet.
Vous avez cité tout à l'heure Paul Sexas, grand espoir du cyclisme français, hein, vraiment.
Bien sûr. Et je trouve que c'est intéressant. Et donc je me dis que demain Paul Sexas gagne à Cholet et je le retrouve sur le Tour ou sur d'autres épreuves, on parlait du monument type Milan-San Remo ou autre, moi j'en serais ravi parce que c'est important pour que le cyclisme vive, que ces gens-là aient le terrain de jeu qui leur permette de s'exprimer.
Alors justement, pour que le cyclisme vive et que les coureurs puissent s'exprimer, il faut des organisations comme la vôtre, Jean-Michel Janteau. On parle toujours de la difficulté d'organiser des courses cyclistes. C'est le cas pour vous?
Toujours difficile. Hein. Une organisation, quelle qu'elle soit, est difficile dans n'importe quel type d'événement. C'est difficile, mais il y a passion. Passion d'une équipe, hein. Je rappelle qu'on est une petite douzaine autour de la table et que nous avons depuis un an, hein, rendez-vous tous les 3 semaines pour préparer les choses. Et aujourd'hui, nous avons une chance à Cholet, c'est que nous sommes accompagnés par la Cholet Agglomération et son président Gilles Bordelex sur cette épreuve. et ce qui fait que ça nous permet aussi de pouvoir donner une belle dimension, une belle visibilité à cette épreuve.
On pense aussi à tous les signaleurs hein, qui sont hyper importants.
Alors, effectivement, je voulais en parler parce que ça, c'est l'essence même du cyclisme. Si nous n'avons pas les 600 signaleurs qui sont présents au bord de la route, c'est un peu difficile. Et là, nous avons une belle chance, une très belle chance sur Cholet-Aglotour. C'est-à-dire que l'engagement sur l'ensemble des communes, quelles qu'elles soient, les signaleurs sont présents. Nous les rencontrons au mois de novembre pour préparer cette épreuve. Et je les remercie vivement et chaque fois je leur dis grand merci, c'est grâce à vous que l'épreuve puisse exister.
Cholet-Aglotour, c'est ce dimanche. Les coureurs s'élancent à 11h30, passent dans les 23 communes de l'Aglo-Choletaise avant de rentrer sur le circuit final parcouru 7 fois pour une arrivée prévue vers 16h. Et si vous aimez le vélo, je vous recommande également la Bernodeau Junior, une course internationale U19 avec un départ donné à La Roche-sur-Yon et un circuit final autour de la Tardière, là aussi arrivée prévue vers 16h15. On reste dans le vélo, mais on sort de la compétition pour s'intéresser à un programme d'apprentissage que nous avons évoqué cette fin de semaine sur Colline avec le dispositif Savoir rouler à vélo qui se déploie sur le bocage Bressuirel. Aglo 2B change de braquet sur ce dispositif national, un programme suivi sur le territoire depuis 2021 dans les accueils de loisirs et les accueils périscolaires désormais. Le programme est proposé dans les écoles de manière à s'adresser à tous les enfants. Sur l'année scolaire 2024-2025, ce sont 380 élèves issus de 8 communes qui sauront rouler à vélo en situation réelle. 17 classes participent cette année. Dans les écoles publiques, c'est l'UCEP qui intervient. Pour le privé, c'est l'école de découverte des sports du Bocage Bressuirel qui a été missionnée. Écoutez le directeur de cette école, Cédric Fuseau.
Donc ça se formalise autour de 3 blocs. D'abord, dans un premier temps, le savoir pédaler avec la maîtrise du vélo, l'équilibre et l'attitude sur le vélo. Ensuite, on a le savoir circuler où là, l'idée, c'est de partager la voie avec d'autres usagers. Donc on commence à amener la sécurité routière, les panneaux et les obligations qui vont avec tout ça. Et puis le dernier bloc consiste en fait à mettre sur le terrain tout ce qui a été vu la semaine. Donc c'est le bloc du savoir rouler à vélo avec une sortie d'une quinzaine de kilomètres, où là les enfants sur la voie publique formalisent et valident tout le contenu qui a été entrevu dans la semaine.
Alors vous avez formé une petite dizaine d'éducateurs hein, pour cette action.
C'est ça, on a 9 éducateurs sur l'école de découverte des sports là, qui ont suivi la formation qui leur permet aujourd'hui d'intervenir et puis de faire valider en collaboration avec les enseignants et les enseignantes le savoir rouler à vélo et l'attestation qui valide cet apprentissage.
Et pour l'école de découverte des sports présidée par Jean-Noël Sorin, c'est une nouvelle corde à l'arc.
Encore une activité supplémentaire pour le DSB, ce qui est une bonne chose puisque d'abord on est toujours dans l'éducation pour les enfants et répondre à la mission que nous a demandé l'AGLO et l'UNSS pour intervenir dans les écoles privées nous permet de se faire mieux connaître sur le canton, enfin sur l'AGLO en règle générale. Et puis ça permet aussi de pérenniser nos emplois des éducateurs de l'école des sports qui sont aujourd'hui au nombre de 23.
Ouais, puis ça correspond complètement aussi à la mission que s'est fixée l'école de découverte des sports, hein, amener les jeunes vers l'activité sportive.
Voilà, l'apprentissage, quel que soit du sport, le vélo bien sûr en fait partie, avec toutes ses règles, et puis de travailler en étroite collaboration avec l'éducation nationale permet aussi de mieux sensibiliser les enfants à toute cette activité sportive qui reste un loisir, mais qui a ses règles, et comme toutes les règles, eh bien, il faut les connaître.
Jean-Noël Sorin, président de l'école de découverte des sports du Bocage Bressuirel, qui compte 23 éducateurs cette saison. On reste sur le bitume, mais on abandonne le vélo pour parler course à pied, avec une grande fête qui se dessine le week-end prochain à Thouars, le samedi 29 mars, dans l'après-midi, au stade municipal. Pour le plaisir de courir, c'est le leitmotiv de l'équipe de l'US Thouars emmenée par Fernando Desiderio, le vice-président du club. Au-delà des animations enfants, plusieurs formats de course seront proposés depuis le stade municipal transformé en village départ pour les courses solidaires, le 10 km et le 5 km, car il s'agit bien pour la plupart de se faire plaisir. C'est l'objectif en tout cas de Fernando Desiderio dans l'enthousiasme et communicatif. Nous l'avons joint en fin de semaine.
Les gens qui veulent se tester sur un 5 km, plus de 50% des participants sur le 5 km qui est de participation féminine. Et tôt qu'on n'atteint pas, bien sûr, sur le 10 km. Le 5 km, c'est vraiment pour le plaisir de courir, pour se tester, pour voir entre amis, entre potes, entre copains, copines, voir si on arrive à le faire ensemble.
Et qui enfile un dossard pour la première fois, peut-être, hein.
Pour beaucoup, oui. C'est un défi et on va tester parce que c'est, faut le dire, c'est aussi un sujet à la mode, la course à pied, et prendre soin de soi, quoi.
Alors des gens que l'on retrouvera sans doute dans quelques années sur le 10 km, hein, puisqu'on y prend goût et on veut toujours aller un peu plus loin finalement.
Je vois des personnes qui il y a un an ou deux ans étaient sur le 5 km, que je vois maintenant arriver sur le 10, puisque ils y ont pris goût et ils se sont entraînés pour, une fois qu'ils ont fait le défi du 5, passer au défi du 10.
Alors les inscriptions Fernando, on en est où en cette fin de semaine?
C'est très 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 bon signe, on est rendu à 600 là à l'instant T, donc à 655, on va atteindre je pense ce week-end, dépasser les 700, et c'était l'objectif qu'on s'était mis. L'année dernière on avait ouvert à 500, on avait refusé plus de 60 personnes, donc on s'est dit cette année non, nouvelle équipe, nouveau défi, on va ouvrir à 1000. Et on verra bien, on va taper sur 700 pour être sûr, et on y arrive, on est très content de nous, franchement très content de nous.
Alors, nouvelle équipe?
C'est un groupe de 14 personnes autour de moi, donc vraiment tous âges confondus, des anciens du club, des nouveaux, et puis une envie de faire évoluer. Pour le plaisir de courir, doit devenir une fête, mais vraiment qu'on a envie de voir, de participer. Voilà, c'est pour ça que, pour l'occasion, on a fait un village départ où on aura une dizaine d'exposants qui apportent un renouveau. Et nous allons avoir donc une course solidaire, courir avec le cœur, avec des handicapés en fauteuil, en Josette, Joëlette et fauteuil course, qui seront accompagnés alors cette année par 25 militaires de l'ENSOA. Sur un effectif de 62 qui se déplacent pour venir aider et faire la course pour le plaisir de courir de Thouars.
Le parcours, parlons-en peut-être.
Donc là, ce parcours regroupe vraiment petite montée, faux plat et longue redescente qui fait que ça va être très joli à voir.
Oui, parce qu'il y a le plaisir de courir, mais il y a aussi ceux qui viennent performer, hein.
Alors exactement, il y en a qui viennent performer, et là à l'instant, alors je viens de l'apprendre, on a la participation de Nicolas Vitré sur cette course, il vient de battre donc un record sur le 10 km, donc je pense qu'il va y avoir un joli challenge entre nos petits champions régionaux, entre nos champions régionaux et locaux, donc je pense que ça sera une belle après-midi de compète pour vraiment les champions, et puis de plaisir pour ceux qui découvrent.
Alors Nicolas Vitré, ouais, j'ai retrouvé, il a fait 28 minutes 46 secondes.
Voilà, exactement. Et donc cette occasion était trop belle, je pense, pour venir se frotter à nos champions locaux, vraiment de Thouars.
Alors il y a Mathieu Bazin par exemple.
Alors Mathieu Bazin, cette année, c'est justement là où ça change. Cette année, Mathieu Bazin va faire la course handisport. Mathieu Bazin court avec un véhicule qui s'appelle une Josette, et il va emmener sa tante qui est atteinte, Christelle, qui est atteinte de sclérose en plaques, alors sur le parcours du 10 km. Donc il ne va pas, il va remettre son titre en jeu. Oui et non, puisque la porte est ouverte pour de nouveaux records ou de nouveaux champions qui se trouvaient peut-être en deuxième, troisième place. Donc cette année, ça va être vraiment la porte ouverte à un nouveau champion du 10 km Thouarsais.
Alors l'exemple de Mathieu Bazin, justement, ça illustre bien cette volonté aussi de mettre en avant la course solidaire, hein. C'est vraiment votre souhait, hein.
Ah oui, cette année, on voulait vraiment impliquer. Alors, On n'aime pas le mot inclusion parce que c'est pas approprié. On a des envies, que ce soit qu'on soit valide ou parasport ou handisport, on a tous des défis. Donc les handisports ont un défi. On a par exemple 5 enfants. Antoine de Thouars, Naël, Paul de Bressuire, enfin voilà, on a plusieurs jeunes enfants qui seront poussés et aidés par les militaires sur les équipements, les Josettes, les Joëlettes.
Alors Fernando, il fait pas très beau ce week-end, mais il fera beau le week-end prochain, hein. C'est prévu sur toi. Hein.
Oui, si, on en a fait la demande. On en a fait la demande de façon à avoir au moins une partie de la journée au moins un rayon de soleil pour que cette journée animée puisse accueillir un maximum de public et qu'on puisse profiter de toute cette animation enfants, adultes, parasport, handisport. Enfin voilà, qu'on soit vraiment dans une journée de partage et de solidarité.
Fernando Desiderio, vice-président de l'US Thouars et directeur des épreuves samedi prochain, 29 mars, pour le plaisir de courir à partir de 14h pour les animations enfants au stade municipal. Le départ de la course principale est fixé à 16h30. Inscription sur Hello Asso. Petite précision concernant Cholet Basket qui prépare sa demi-finale de FIBA Eurocup cette semaine en Grèce et non pas en Espagne. Je pensais à Saragosse, mais Saragosse c'était évidemment l'adversaire en quart de finale. Place désormais au demi mercredi face au PAOK Salonique. Ce sera sans doute bouillant avant un retour à la Meilleraie une semaine plus tard, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans le courant de la semaine.